Qu'est-ce que ça ?
Qu'est-ce la vérité ?
Pourquoi ?
RFI.
RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Julia Trangeval.
Bonjour. RFI couvre-t-elle la guerre au Soudan de manière équilibrée ? Coup de projecteur sur ce conflit oublié, l'une des plus graves crises humanitaires de la planète aujourd'hui. Et puis en amont du sommet de Paris sur l'intelligence artificielle, nous parlons de la prolifération des contenus inauthentiques en ligne et de comment les repérer. Mais d'abord, nous prenons la direction du bureau de Jérusalem pour répondre aux questions des auditeurs sur l'utilisation des mots « otage » et « prisonnier ». Nous sommes en ligne avec Sami Boukhelifa. Bonjour Sami.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Avec le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, on a beaucoup parlé sur notre antenne de libération des otages israéliens, de libération des prisonniers palestiniens. Et ce vocabulaire, otages, prisonniers, ça interroge beaucoup nos auditeurs. C'est le cas de Ngor Diouf qui écrit « Voyez comme RFI joue avec les mots, otages, prisonniers, ce média, vraiment, ce sont tous des prisonniers. » Et Mohamed Toé, lui, se demande quelle différence il y a entre les deux termes. Alors, est-ce qu'on peut éclairer ces auditeurs ?
On parle d'otages israéliens d'abord parce qu'il s'agit majoritairement de civils qui ont été enlevés chez eux. Ils n'ont pas été arrêtés par un État, ils ont été enlevés par une branche armée d'un mouvement, d'une organisation palestinienne qui certes a un gouvernement dans la bande de Gaza, je pense au Hamas, mais le Hamas c'est un mouvement. Encore une fois, ces gens ont été enlevés chez eux, pas arrêtés, pas jugés, pas mis dans des prisons. Le Hamas ne dispose pas, en tout cas sa branche armée, ne dispose pas comme un État pourrait l'avoir d'un système judiciaire ou d'un système carcéral. C'est pour ça qu'on parle donc d'enlèvement et d'otages. Maintenant, peut se poser la question des soldats israéliens qui ont été enlevés. Est-ce qu'on peut les considérer comme otages ou est-ce que on peut les considérer comme prisonniers de guerre ? Je pense que la question mérite d'être posée concernant les Palestiniens. Plusieurs réflexions autour de ce sujet. Israël arrête les Palestiniens, les met dans ses prisons. C'est un système qui est critiquable parce que Israël est un État d'occupation, est une puissance occupante qui arrête des Palestiniens, mais elle les arrête dans un cadre juridique légal. Parmi ces détenus palestiniens qui ont été libérés, certains ont du sang sur les mains, c'est vrai. Mais la version palestinienne, c'est la suivante. Les Palestiniens accusent Israël de faire des arrestations préventives, d'arrêter des centaines, voire des milliers de Palestiniens en prévision de ces accords d'échange de prisonniers contre otages pour en faire justement des monnaies d'échange. Mais ces arrestations se font dans le cadre de la loi. Alors Israël utilise ce qu'on appelle la détention administrative. La détention administrative, c'est quoi ? C'est une méthode qui permet à Israël d'arrêter des Palestiniens sans motif, sans même qu'ils soient jugés. Ils sont arrêtés et mis en prison pour une période de 3 mois renouvelable indéfiniment. Ils peuvent passer leur vie en prison. C'est une méthode d'arrestation abusive, mais c'est une méthode qui est régie par le droit international. Maintenant, il reste une dernière catégorie de Palestiniens, c'est les Gazaouis qui ont été arrêtés en dehors de tout cadre légal et enfermés dans un centre de détention secret. Ceux-là, on peut les considérer comme civils palestiniens victimes d'une disparition forcée et ce sont des lanceurs d'alerte qui ont dénoncé ces agissements de l'État d'Israël.
This is about getting machines to do things that we recognize as intelligent when people do them.
Paris accueillera à partir du 6 février prochain un sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. L'IA pose de nombreux défis, et notamment un défi majeur, celui de la prolifération des contenus inauthentiques en ligne. Aujourd'hui, n'importe qui peut générer des images ou du son gratuitement à des fins de désinformation. Ces contenus trompeurs omniprésents sur les réseaux sociaux rendent difficile, mais plus important que jamais, le travail des fact-checkers. Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI est avec nous dans ce studio. Grégory, concrètement, est-ce que vous arrivez, vous, à déceler les images ou les sons altérés par l'IA ?
Alors oui, mais disons que c'est de plus en plus difficile. Les premiers contenus fabriqués grâce à l'intelligence artificielle étaient relativement simples à détecter. En observant ou en écoutant attentivement, on pouvait toujours repérer quelques incohérences. Pour vous donner quelques exemples, l'IA a longtemps eu du mal à reproduire fidèlement les mains et les visages. On se retrouvait souvent avec 6 à 7 doigts par main ou avec des yeux complètement ratés. Pour les voix, c'est la même chose. On avait souvent ce ton robotique caractéristique de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces défauts ont été corrigés sur la plupart des outils grand public, ce qui rend la détection basée uniquement sur l'observation et l'écoute de plus en plus compliquée.
Alors, au-delà de la vérification humaine, manuelle, si on peut dire, est-ce que vous avez des outils numériques qui vous permettent de vérifier si un contenu est bien réel ou artificiel ?
Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous des détecteurs d'intelligence artificielle. Si vous cherchez sur des navigateurs type Google ou Bing, vous en trouverez par dizaines. C'est devenu aujourd'hui un véritable marché. Le problème, c'est que ceux qui fonctionnent vraiment et gratuitement, c'est important, se compte en réalité sur les doigts d'une main. Et puis contrairement à ce que certains affirment, ces outils ne sont pas fiables à 100%. Le détecteur miracle n'existe pas, malheureusement. C'est la raison pour laquelle, tout comme on croise les sources quand on vérifie une information, c'est ce que fait tout journaliste, eh bien on va utiliser plusieurs outils pour minimiser le risque d'erreur.
Alors en attendant le miracle, ces outils ne remplacent donc pas les autres moyens de vérification ?
Eh bien non, absolument pas. Ces outils s'ajoutent au travail d'observation, de recherche par image inversée, plus globalement d'enquête numérique. Ce sont tous ces éléments de vérification combinés qui vont nous permettre de dire si cette image, cette vidéo ou ce son est réel ou inauthentique.
Grégory, concernant ces outils de vérification, est-ce qu'il y a une différence de fiabilité entre la détection des images, celle des photos ou vidéos et des sons ?
Malheureusement, oui. Ce qu'on constate, nous, à la cellule InfoVérif, c'est que les outils de détection sont beaucoup plus fiables pour les images que pour les sons. Les détecteurs sonores remontent beaucoup plus de mauvais résultats, des faux positifs ou des faux négatifs. D'un côté, les outils de vérification sont perfectibles, on vient de le dire, et de l'autre, les audios générés par intelligence artificielle sont chaque jour de meilleure qualité. On en a récemment fait l'expérience avec un prétendu enregistrement du dictateur syrien déchu Bachar al-Assad, diffusé sur les réseaux sociaux. Écoutez.
ونتيجة لما وصل إليه حال الشعب السوري قررت أنا بشار الأسد وبعد الإقرار التام عن مسؤولية.
Pendant 56 secondes, on pense entendre Bachar al-Assad présenter ses excuses au peuple syrien. Sauf que cet audio est un faux. Quelqu'un l'a produit grâce à l'intelligence artificielle pour désinformer. Et cet extrait, quand on le passe au crible de plusieurs détecteurs, eh bien tous affirment que le son est authentique, alors que non, Bachar al-Assad n'a jamais prononcé ce discours, d'où l'importance, on le répète, de considérer ces outils comme une source parmi d'autres.
Alors ça, c'est la partie, disons, négative de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'au contraire, vous utilisez des programmes d'IA pour vous aider dans votre travail ?
Oui, on en utilise plusieurs pour différentes tâches, pour traduire du contenu, par exemple, pour scripter des interviews, pour améliorer la qualité d'un son. On se sert aussi des agents conversationnels type ChatGPT, Claude ou Perplexity pour faire des recherches, comme tout le monde, mais aussi pour suivre leur évolution et les comparer. J'insiste encore une fois, mais on vérifie toujours les résultats que l'on obtient pour s'assurer que l'IA n'a pas fait d'erreur. Et puis globalement, on essaye régulièrement de nouveaux outils pour rester à la page de l'évolution de l'IA. Cela nous permet de savoir ce qu'il est possible de faire et donc de ne pas se faire avoir.
Merci Grégory.
Pourquoi RFI dit ça ? Julia Trangeval.
Pourquoi RFI dit ça ? Avec Laurent Corot, rédacteur en chef au Service Afrique. Bonjour Laurent.
Bonjour.
On a une question d'un auditeur sur notre couverture de la guerre au Soudan. Il nous dit, prof Hollywood 2H, je trouve que votre radio a pris parti pour le camp de l'armée soudanaise dans son traitement de la guerre. Vous ne mentionnez presque pas les bombardements quotidiens de l'aviation de guerre sur les civils dans les régions de l'Ouest. Vous ne parlez pas non plus des atrocités à caractère terroriste de l'armée, du câblage ethnique de certaines couches de la population. J'imagine qu'il veut dire ciblage ethnique. Je crois que vous devez revoir vos sources d'informations dans cette région. Elles manquent d'impartialité. Alors, une couverture qui manquerait d'impartialité, qu'est-ce qu'on répond à cet auditeur, Laurent ?
Alors, c'est vrai que c'est une interpellation importante et intéressante, et d'ailleurs une interpellation qui va nous donner l'occasion de remettre le projecteur sur cette guerre qui a lieu au Soudan. D'abord, de quoi parle-t-on ? On parle d'un conflit qui oppose deux généraux soudanais, Al-Burhan et Emeti, qui les opposent depuis le 15 avril 2023. D'un côté, vous avez l'armée soudanaise contrôlée par Al-Burhan, et de l'autre, vous avez les forces de soutien rapide, les FSR, une force paramilitaire qui était jusque-là en appui de l'armée, qui a fini par s'opposer à elle. 15 avril, donc Juliette, ça veut dire qu'on se dirige vers la deuxième année de ce conflit.
Deux ans, mais un conflit qui est largement occulté par la communauté internationale et qui a un bilan humain effrayant.
Alors un conflit, oui, auquel de nombreux médias n'accordent pas beaucoup de place, alors qu'il s'agit de l'une des crises humanitaires majeures du moment. On évalue par exemple à 30 millions le nombre de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire en ce début d'année. C'est également le pays qui compte le plus de déplacés au monde. On parle de 12 millions de personnes qui ont dû fuir leur domicile depuis le début du conflit. Et puis les chiffres que nous donnent les humanitaires font aussi qu'on parle de la pire famine dans l'histoire récente du Soudan. Et puis il y a donc ces terribles violations des droits de l'homme qui se produisent dans différentes régions du pays. Le 7 janvier dernier, le secrétaire d'État américain de l'administration Biden, Anthony Blinken, avant de quitter ses fonctions, a d'ailleurs formellement déclaré que des membres des FSR, les forces de soutien rapide, et des milices alliées, avaient commis un génocide au Soudan. Il s'agit notamment de ce qui est passé dans l'ouest du pays, au Darfour.
Alors, ce sont des accusations de génocide contre les FSR, les forces de soutien rapide. Mais est-ce qu'RFI ne sous-estime pas du coup les exactions qui peuvent être réalisées de l'autre côté par les forces gouvernementales?
Alors, c'est possible, hein, malheureusement. Mais je vous dirais d'ailleurs, comme sur d'autres dossiers dont on a déjà parlé ensemble ici, qu'il n'y a pas en fait de parti pris de RFI sur ce dossier. C'est vrai que nous avons plus de retours sur des exactions commises par les FSR du général Emeti et qu'on peut avoir l'impression d'un déséquilibre. Il y a de manière générale un biais au sein des intellectuels soudanais et de la communauté internationale concernant Emeti et ses hommes, qui est lié à l'histoire, qui est lié au fait que les FSR sont les successeurs directs des Janjaweed. Vous vous souvenez, ces cavaliers terribles qui avaient dévasté le Darfour au milieu des années 2000, il y a une vingtaine d'années. On oublierait du coup presque, ou en tout cas on aurait tendance à minimiser le fait que cette attaque systématique des villages Darfouri par les Janjaweed au début des années 2000 se faisait en coordination avec l'armée soudanaise.
Et pour autant, Laurent, est-ce qu'RFI passe sous silence les exactions de l'armée?
Alors, pas du tout. Nous couvrons les bombardements indiscriminés des forces gouvernementales sur la ville d'El Fasher et ses environs. Nous couvrons aussi les exactions qui ont été commises par les milices pro-gouvernementales depuis la reconquête de Wad Madani. Alors là, peut-être il faut vous donner quelques explications. Oui. De quoi s'agit-il? Wad Madani, en fait, c'est la capitale de l'état d'Al Jazeera qui est située dans la partie centre-est du Soudan. On est là à environ 200 km de Khartoum. En décembre 2023, donc, la ville avait été prise par les forces de soutien rapide. Elle a été reprise par les forces pro-gouvernementales. À la suite de cette reprise, on a assisté à des atrocités commises à l'encontre de Sud-Soudanais et de Soudanais qui vivent dans cette région. Et pourquoi? Parce que ces personnes sont suspectées d'avoir été favorables au FSR. Beaucoup de ces exactions ont été filmées, diffusées sur les réseaux sociaux. On voit sur les images qui circulent des hommes en uniforme de l'armée soudanaise arrêtés, exécuter parfois des civils. Et à la suite de ces vidéos, le ministère des Affaires étrangères sud-soudanais à Djouba a convoqué l'ambassadeur soudanais le 15 janvier dernier. On voit aussi à la suite de ces vidéos des manifestations éclatées au Soudan du Sud, à Djouba, et un discours aussi de haine se développer au Soudan du Sud concernant les Soudanais.
Des développements inquiétants. Donc est-ce qu'on sait, Laurent, qui est responsable de ces exactions?
À vrai dire, on n'a pas encore toutes les informations. Les responsabilités entre l'armée soudanaise elle-même et les milices qui lui sont associées restent encore à déterminer. Mais on parle beaucoup du rôle joué par une milice qui s'appelle les Sudan Shield Forces, ce qu'on pourrait traduire par les forces boucliers soudanaises, qui est une milice dirigée par un ancien chef des FSR qui s'est rallié à l'armée. Il s'appelle Abu Akla Kaikal. Ce qu'on sait aussi, c'est que les représailles sont ethniquement ciblées dans certaines vidéos qui ont été reçues par l'ONU. Les exécutions sommaires sont perpétrées en parlant d'opérations de nettoyage. Donc tout cela est effectivement très préoccupant et pointe la responsabilité des autorités de Port-Soudan. Le signe d'ailleurs que des exactions sont commises par les deux camps, c'est que peu de temps après avoir mis sous sanction le général Emeti, eh bien les États-Unis ont également mis sous sanction le général Al-Burhan. Anthony Blinken, dans un communiqué, a déploré, je cite, que les membres des forces armées soudanaises, sous la direction d'Al-Burhan, ont continué à commettre des atrocités, notamment en prenant pour cible des civils et des infrastructures civiles et en exécutant des civils.
On continuera à suivre les développements de cette guerre au Soudan. Merci à cet auditeur pour son interpellation et merci à vous, Laurent Combe.
Merci, Juliette.
Le compte est bon ?
Le compte est bon.
Non mais, sérieux. T'as entendu ?
Pourquoi RFI dit ça ? comme ça. Bonjour Frédéric Genot.
Bonjour.
Aujourd'hui, pour reprendre le titre d'une émission assez ancienne de la télévision française, Le compte est bon, nous allons parler chiffres et nombres.
Les chiffres, les signes d'écriture qui permettent d'écrire des nombres. Au début, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, etc. À partir de 16, on rajoute des traits d'union. 17, 10, traits d'union 7, comme si on disait 10 et 7. On met des traits d'union à partir de 17 et jusqu'à 99, il n'y en a plus au-delà des centaines. 468, il n'y a de trait d'union qu'entre 60 et 8. Enfin, ça, c'était jusqu'en 1990. Une réforme, ou plutôt les rectifications de 1990, préconisent de mettre des traits d'union partout, 2024 en toutes lettres. Cela ferait donc 2 traits d'union 1000, traits d'union 20, traits d'union 4. On voit que, comme dans la plupart des changements récents dans l'orthographe, on cherche à simplifier, à limiter les exceptions. Il n'empêche, je me sens toute chose depuis que je le sais.
Moi aussi. Alors, il y a des règles. Heureusement, il y a des règles. Avec ou sans trait d'union, il y a des règles de prononciation des nombres.
Au-delà de 6 chiffres, il faut prendre son élan, faire des groupes de 3 pour distinguer les milliers, les centaines de milliers, puis les millions, les centaines de millions, les milliards, et ainsi de suite. Lorsque les nombres sont très importants, il est d'usage dans la presse de les écrire en abrégé. Cette semaine, à propos des économies que le gouvernement va devoir faire pour limiter le déficit, on a pu lire qu'il allait effectuer des coupes d'1,3 milliard d'euros pour l'aide au développement. Cela s'écrit 1,3 milliard, mais ça se prononce 1,3 milliard. Enfin, en principe, parce que cette influence de l'anglais progresse à grands pas et qu'on entend même parfois parler de points. Quand on dit 2,5 millions d'euros, on est très loin des 2,5 millions ou 2,5 millions qui serait la prononciation exacte. D'autre part, la virgule ajoute un montant après le chiffre rond, mais on ne dit pas les 1,7 millions de salariés du secteur. Les, c'est à partir de 2. Dans cet exemple, on dit bien le 1,7 million salariés du secteur.
C'est pas facile d'accorder les nombres.
Non, et d'ailleurs, ça ne s'accorde pas toujours. On ne dit pas l'entreprise truc est la numéro 1 en France. Entreprise est féminin, mais l'accord se fait avec le nom, numéro, qui est masculin. L'entreprise machin est la numéro 1 en France. Ursula von der Leyen est la numéro 1 de la Commission européenne. Dans le même ordre d'idées, on ne dit pas nous allons fêter les 1 an de tel événement. 1 an, c'est un anniversaire. On peut fêter les 2, 3, 5 ou 10 ans, mais on fête l'anniversaire tout court quand la date est 1 an tout rond.
Frédéric, ce qui est essentiel quand on parle de nombres importants, c'est de donner un ordre de grandeur.
Tout à fait, Juliette. Notre grand spécialiste en ordre de grandeur, c'est Simon Rosé, le chef du service environnement-climat. Il a un exemple qu'il dégaine régulièrement pour expliquer ce que c'est. Une petite phrase du style « Tu vois ce qu'est 1 million, tu vois ce qu'est 1 milliard. Pour compter jusqu'à 1 million, il te faut 10 jours. Et pour compter jusqu'à 1 milliard, il te faut… »
Aucune idée.
30 ans. Lorsqu'on évoque la superficie du plus gros iceberg du monde, 4000 km², l'auditeur ne visualise pas à quoi cela correspond. Pour l'aider à comprendre, on va lui proposer une comparaison. Par exemple, 4000 km², c'est 40 fois la surface de Paris. Vous l'admettrez, ce n'est pas forcément beaucoup plus clair. J'ai d'ailleurs voulu vérifier sur Internet. J'ai trouvé que l'iceberg faisait 2 fois la superficie de Londres. Londres, 1572 km², Paris, 105 km². Si on n'a pas les références, évidemment, ça n'est pas très efficace.
On ne peut pas terminer, Frédéric, sans citer quelques exemples légendaires de chiffres pièges.
Légendaires, mais absolument authentiques. Juliette, nous en avons été témoins. Le chef d'État nord-coréen Kim Jong-il, mort en 2011. Le « il » de son nom était écrit avec un « i » majuscule et un « l ». Cela ressemblait à 2 bâtons. Plusieurs présentateurs l'ont rebaptisé Kim Jong II. De la même façon, les rois du Maroc ont parfois été appelés Mohamed V pour Mohamed VI et pour son père Hassan II. On a entendu Hassan II I ou Hassan II.
Pourquoi RFI dit ça ? À la réalisation, Françoise Grelot. À bientôt.